Pourquoi je parle de moyenne des sens 1953? Parce que c'est la découverte aussi de l'ADN. C'est surtout ça qui est important en 1953, c'est pas que je sois né. Bon, ça c'est un point. Et c'est aussi pour expliquer parfois que en 50 ans, puisque ça fait près de 50 ans, il y a eu une telle découverte qu'il faut faire passer au niveau du grand public. C'est un peu comme si, dès 50 ans après la découverte des équations de Descartes, il aurait fallu qu'il explique leur fonctionnement, je dirais 50 ans après, à un groupe de personnes, chose que toute manière, il n'aurait jamais pu faire compte tenu de, je dirais, la difficulté que ça peut rentrer. Donc c'est pour montrer qu'on est très très proche de deux choses qui sont importantes et dont je parlerai assez souvent, c'est que on est encore dans la recherche, c'est-à-dire qu'on cherche encore des choses et on a déjà des conceptions de la science. Et la différence qu'il y a entre la recherche et la science, c'est que la science, c'est un socle, ça existe, alors que la recherche, on est encore en termes de découverte. Et donc parfois, on est très très proche l'un de l'autre, et notamment dans le cas qu'on a aujourd'hui, au niveau des OGM, il n'y a pas de science, on est encore dans la recherche, et c'est très important, on ne sait toujours pas si 2 et 2 font 4. Alors, les exposés, j'ai pour habitude de faire cet exposé dans différents endroits. Mais toujours en essayant de répondre le mieux à toutes les questions. Et si en cours de route, vous avez un moment donné où il y a quelque chose où j'ai dit une grossièreté, il faut me le dire, parce que souvent les scientifiques, ils ont un jargon qui font que de temps en temps, on part dans nos nuages. Donc les aspects abordés que j'ai essayé d'aborder, tout en tournant en temps de l'alimentation, c'est pourquoi un jour on s'est posé la question des OGM. Bon, un peu comment, c'est de la technique, ça ira très vite. Je vous fais grâce, mais c'est important de comprendre. Et ensuite, d'avoir des réflexions dans la notion de l'économie, la politique, l'éthique et la philosophie. Et je me suis aperçu qu'assez souvent, c'était des points qui étaient importants. Alors, le pourquoi, il y a deux choses qui sont excessivement importantes quand on parle des OGM. Ce sont donc des organismes génétiquement modifiés. Le pourquoi, le scientifique de base vous dit, c'est pour comprendre des mécanismes. Alors ça, c'est bien beau une fois qu'il a dit ça. En clair, vous savez tous qu'on a de l'ADN, vous savez tous que cet ADN fait plus ou moins des protéines, enfin ça se débrouille un peu comme on peut, et que toutes ces protéines font qu'à un moment donné, on arrive à faire une plante, un homme, une femme, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et souvent, on a besoin de comprendre les mécanismes, de savoir pourquoi, à un moment donné, cet ADN, par exemple, balbutie et fait qu'on a des trisomies, pourquoi une ADN, de temps en temps, on retrouve à peu près la même ADN chez l'homme, la souris et puis les grenouilles. Et pourquoi il y a un cas, ben, ça fait des grenouilles, un cas, ça fait des souris, un cas, ça fait des. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la compréhension des mécanismes. Donc le chercheur de base, du point de vue théorique, il a besoin de comprendre. Le second point qui est important, qui est plus lié à une application, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance de la variabilité. Alors, je vais vous l'illustrer ici, l'influence de la variabilité. Qu'est-ce qu'on appelle la variabilité génétique? Là, vous avez une photo avec des melons. Tout ça, ce sont des melons. Il n'y a pas de souci. Et vous avez à la fois des melons qui ressemblent à des serpents, qui font à peu près 2 à 3 mètres de long, qui poussent environ de 10 à 15 cm par jour, dans certaines régions arides, qui sont consommés, comme des légumes, c'est-à-dire qu'il faut les cuire, parce que ça, c'est immangeable. Dans d'autres cas, vous avez des melons plus traditionnels comme ceux que vous pouvez voir ici. D'autres sont des melons qui sont complètement éclatés. Et ici, vous avez un melon qu'on ne consomme pas du tout, qui est complètement immangeable, mais qui sert de parfum. C'est-à-dire que dans certaines régions d'Éthiopie, on garde ce melon dans une maison et ça éloigne les insectes pendant un certain cas. Et en fait, la question souvent qu'on se pose, c'est que par rapport à ces ressources génétiques, on a envie de transporter des gènes d'une plante à une autre plante. On se dit, après tout, ce serait peut-être pas complètement idiot si le bon charentais ou le bon melon cavaillon, on pourrait plutôt l'allonger un petit peu, lui donner un peu une odeur caractéristique pour éliminer les insectes, rajouter un peu de sucre. Donc on a besoin d'aller chercher des caractères. Hein, c'est bien ça qui est important. Donc on transporte des caractères. Et c'est un peu ça l'un des points de la. Des OGM, c'est que le scientifique ou le chercheur va chercher des caractères dans différentes espèces et il fait des croisements. Jusqu'à une époque très très récente, on faisait des croisements simplement à l'intérieur d'une espèce en prenant le pollen de la plante qui était intéressante et on le croisait avec le pollen de la plante qu'on voulait améliorer. Par exemple, on en avait une qui avait une résistance à un parasite, l'autre qui avait une bonne qualité. Et on faisait, par exemple, des tomates qui résistaient à la fois aux parasites et qui étaient consommables. Et ainsi, tout le monde était content, aussi bien le producteur que le consommateur. Mais dans certains cas, vous avez des cas où vous avez beau chercher dans toute la variabilité génétique que vous avez, dans toute l'espèce que vous avez, il n'y a pas le caractère que vous cherchez. Il n'existe pas. C'est un exemple que je peux illustrer aussi ici, par exemple par rapport à une pomme de terre. Ici, c'est une pomme de terre qui a été attaquée par la teigne. Alors la teigne, c'est un lépidoptère qui pond ses larves à la sortie de la culture dans des pays relativement chauds. Et quand on stocke la pomme de terre, eh ben les larves rentrent dans la chair et provoquent ce genre de dégâts où vous voyez que les pommes de terre sont complètement minées et immangeables. On n'a pas de gène chez la pomme de terre pour faire ça. Donc on a deux solutions. La première solution qui a été adoptée pendant le premier groupe de solutions sont souvent des solutions agronomiques. Par exemple, on n'a qu'à consommer la pomme de terre au moment où elle sort du sol. Du coup, l'insecte n'a pas le temps de ravager la pomme de terre et on la consomme. Ça a quand même un inconvénient majeur parce que dans beaucoup de pays, cette pomme de terre, elle est faite comme quelque chose pour être consommée pendant l'hiver. Donc on a besoin de la stocker. Donc là, ça ne va pas du tout. Donc on s'est dit, on va mettre la pomme de terre au froid. C'est ce qui se passe dans le nord de la France, dans lequel on stocke les pommes de terre au froid pendant l'hiver, de manière à ce que l'insecte, si jamais il a pondu, ne se développe pas et on a une pomme de terre correcte. Ça marche très bien, mais dans des pays où la teigne est très présente, comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie ou un peu au sud du Mali, on s'aperçoit que pour faire fonctionner un frigo ou une chaîne de froid, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut alimenter l'électricité, etc. et tout. Et les chercheurs du CIP se sont dit, soit on passe par une solution économique. Alors, les chercheurs du CIP, excusez-moi, le CIP, c'est le Centre International de la Pomme de Terre. C'est un organisme qui travaille en Amérique du Sud. Ils se sont dit, soit on essaie de jouer politiquement avec les différents pays en voie de développement pour leur filer de l'argent de manière à ce qu'ils aient une chaîne de froid, soit on va travailler du point de vue génétique et on va aller chercher dans une bactérie un gène qui est résistant, qui permet d'apporter la résistance à la teigne. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les pommes de terre qui sont de ce côté-ci. On voit très bien qu'il n'y a pas de ponte lorsqu'elles ont été mises et que l'intérieur est sain. Donc, c'est un cas typique où les OGM ont permis d'apporter une solution à une question qui se posait à un endroit donné, là où d'autres solutions pouvaient exister, mais n'étaient pas forcément applicables dans les pays où on voulait l'utiliser. Après, il faut vérifier ce nombre de risques qu'on verra après. Alors, il y a des pourquoi. Alors, le pourquoi précédent, il peut se défendre, il peut se réfléchir. J'ai trouvé un autre pourquoi dans un journal australien où ils ont fait une transformation génétique de l'œillet parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas assez de fleurs de couleur, je dirais un petit peu liées à la mort, et ils ont voulu faire un œillet, je dirais avec ces couleurs qu'on pouvait mettre au niveau des cercueils, au niveau des décorations funèbres. Alors là, on peut avoir aussi deux attitudes. Même plusieurs attitudes on peut avoir. La première, c'est de se dire, après tout, c'est une plante transgénique, mais ça n'a pas un problème majeur, vu qu'on ne va pas la consommer. A priori, on mange rarement les œillets. Enfin bon, je dis bien a priori. Donc a priori, pourquoi pas. On peut aussi se dire, pourquoi on n'aurait pas développé des fleurs qui avaient des couleurs, je dirais, de ce type-là. Et puis après, il faut réfléchir. C'est que, en allant un peu plus loin dans le raisonnement, supposons que je n'ai pas envie de manger de plantes transgéniques, c'est mon droit, mais est-ce que je suis capable d'offrir une rose transgénique pour l'anniversaire de mon ami, sous prétexte qu'elle va avoir une tenue en vase qui va durer plus longtemps? Ou bien, si je me promène dans les forêts du sud de la France, où il y a beaucoup de... Ça y est, j'oublie le nom de l'insecte, mais processionnaire du pain... Est-ce que je me dis, est-ce que si on trouve une solution pour éliminer génétiquement la processionnaire du pain, c'est pas mieux que d'avoir des hélicos qui balancent des herbicides, mais moi, est-ce que je suis capable de me promener sous un arbre en sachant qu'il est transgénique? Donc il y a plein de questions comme ça qui se posent à partir de rien et que j'essaye de vous illustrer par ces diapositives, en ce sens qu'à un moment donné, le chercheur, le scientifique, il a un outil entre les mains qui est la capacité de transporter un gène d'une plante à une autre, mais il faut aussi, à un moment donné, qu'on se pose un certain nombre de questions, et on essaiera de les poser ensemble, sur quelles sont les conséquences et les avantages de cet outil. Alors, un petit point de technique qui est important, et sur lequel il y a eu des contributions il y a une dizaine d'années, lorsqu'il y avait eu des travaux sur l'acceptation des OGM, notamment faits par les sénateurs et puis les députés, c'est qu'on s'est aperçu que derrière le mot OGM, on mettait tout. Mais quand je dis tout. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, j'explique à quelqu'un qu'un arbre qui est greffé, donc la greffe, on avait beau couper l'arbre, faire des greffes normales qu'on faisait depuis un certain temps, il n'a jamais voulu me croire que ce n'était pas un OGM. Donc on s'est aperçu qu'on avait un problème de langage et que qu'il fallait modifier. Bon, ça a été repris dans certaines demandes récemment dans le Grenelle de l'environnement qui est en train de se situer. Et donc, au niveau scientifique, on s'est aperçu qu'il fallait parler de quatre choses. Bon, ce n'est pas complètement encore bien dans le crâne de tout le monde, qui sont la transformation génétique, la transgénèse, les OGM et les PGM. Et c'est aussi important du point de vue conceptuel. D'abord, du point de vue conceptuel, il y a une chose qui est très importante. C'est que la transformation génétique ou la transgénèse, ce sont des outils, ce sont des méthodes de travail, alors que les OGM ou les PGM, plantes génétiquement modifiées, sont les produits vivants de cet outil. Donc déjà, du point de vue philosophique, on a une très grande différence, parce qu'il y a un moment donné où vous pouvez très bien imaginer qu'on utilise ceci par rapport à cette transformation génétique ou cette transgénèse, d'ailleurs, transgénèse, ça veut dire transport de gènes, hein, c'est bien cette notion-là, que ça reste pour des notions d'explication, qu'il y a production de matériel biologique uniquement à des fins expérimentales ou de connaissances, mais que le grand public, ou même le petit public, ou même tout le monde ne verra jamais. Et que quand vous avez actuellement dans le Grenelle de l'environnement les gens qui disent qu'il faut préserver la recherche par rapport à tout ça pour comprendre, ils se situent bien dans cette première partie qui est la transformation génétique et non pas dans cette seconde partie qui est la production à grand niveau, je dirais, d'OGM ou de PGM. Bon, ça, c'est un point qui est excessivement important parce que dans le débat, dans les articles de journaux qu'on peut lire ou dans les positions, on voit tout de suite la différence qu'il peut y avoir. Parce qu'en général, on est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut acquérir des connaissances. Hein. La recherche, ça sert à acquérir des connaissances pour constituer le socle de la science. Et que parfois, il y a des connaissances qui restent comme ça en l'état, et puis on attend un certain temps avant de les comprendre. Deuxième point qui est important, les gens disent on a une position dure par rapport aux OGM, et trois jours après, moi ça m'est arrivé, j'ai fait des expériences, on est prêt à donner pour un certain nombre d'émissions de télévision comme le Téléthon, qui, du point de vue du médecin, du point de vue du scientifique, sont exactement la même chose, du point de vue conceptuel, que l'on fait lorsque l'on, par exemple, transforme des virus pour guérir des maladies in situ, ce genre de choses, c'est de la transformation génétique, c'est de la transgénèse. Et on ne produit pas un OGM, mais on sauve quelqu'un qui a une maladie difficile. Et encore plus près de nous, qui est très important, on y reviendra après, dans le domaine pharmaceutique. Les gens disent, dans le domaine pharmaceutique, il y a des consommations, des produits qui sont consommés, qui sont issus de la transgénèse. Par exemple, l'insuline, qui autrefois sortait du pancréas des porcs, et aussi bien l'hormone de croissance, enfin différentes choses. Et donc ça, c'est important de le concevoir. Et en disant ça, je n'essaie pas du tout de défendre le pour ou le contre, j'essaie de dire qu'il y a différents niveaux de réflexion et d'explication. Il faut bien comprendre que quand on consomme un produit médical, on a un bien en plus. Les gens qui consomment de l'insuline, c'est parce qu'ils sont diabétiques, donc ils ont besoin de s'en servir. Donc ça leur apporte un plus. Alors, actuellement, au niveau de l'alimentation, on n'a pas encore trouvé le plus qu'apporter cette transformation génétique. Donc tous ces concepts, j'y reviendrai après, et ça explique un certain nombre de points par rapport au refus qu'il peut y avoir d'un groupe de personnes et la non-compréhension qu'il peut y avoir des scientifiques qui ont fait ce travail, ce qui fait que les gens ne se sont pas rencontrés et ce sont un peu les sources un peu du refus. Bon, alors, très rapidement, comment on fait une plante transgénique? Bon, je vous le montre parce que c'est relativement intéressant et ça apporte aussi des notions de biologie qui sont intéressantes. Il y a deux méthodes, en gros. Alors, il y a une méthode qui paraît complètement banale, mais qui fonctionne, c'est qu'on fait du contact direct avec une cellule. C'est-à-dire qu'on prend une cellule végétale et on lui envoie avec des billes d'or de l'ADN, et l'ADN rentre dans la cellule et on peut avoir une transformation génétique. Il y a une autre méthode, c'est qu'il y a une bactérie, qui est l'Agrobacterium tumefaciens, comme vous voyez au-dessus, qui, elle, je dirais, a la capacité de transformer les plantes. Alors elle le fait depuis un certain nombre de milliers d'années, et qui a la capacité d'injecter l'ADN. Et il y a une chose qui est très importante. Alors voilà comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on prend une coquille d'os sur une plante, et au bout d'un certain temps, on arrive à régénérer une plante qui devient une plante entière. Alors pour vous, ça ne ressemble pas à une tomate, mais quand je mets ça au champ, ça devient une tomate, enfin au champ en serre plutôt, excusez-moi, ça devient une tomate tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est typique du monde végétal. On ne sait pas le faire dans le monde animal. C'est exactement comme si je prenais une cellule de votre peau, de votre foie, de vos yeux, et que je régénérais en moins de 6 semaines, à peu près, vous exactement. On sait le faire chez les végétaux, on ne sait pas le faire chez les animaux, donc chez l'homme. Ça ne veut pas dire que nos organes ne se régénèrent pas, il faut être très clair. Par exemple, le foie, l'intestin, les poumons se régénèrent. Mais on ne sait pas à partir d'une cellule qu'on appelle complètement dédifférenciée, une cellule de peau. Là, c'est un cotylédon de plante, vous imaginez, c'est un truc qui est vraiment en fin de vie, normalement, puisque ça va juste alimenter le début de la croissance de la plante. Eh bien, on peut refaire une plante avec ça. C'est ce qu'on appelle, d'un nom barbare, mais qui est important, la totipotentialité. Ça veut dire que les cellules ont la toute potentialité de refaire une plante. Et ça, ça existe dans le règne végétal. C'est presque, à mes yeux, quelque chose qui est presque plus important que la transgénèse. C'est la capacité, à partir d'une cellule, de refaire un être identique et d'en faire des dizaines. Et du coup, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui est encore plus important du point de vue philosophique ou genre de choses. Et surtout pour nous, du point de vue pratique. Du coup, comme on avait cette technique à portée de main, si vous voulez, faut bien comprendre que quand on est généticien, qu'on cherche à comprendre comment on transfère les gènes, et tout ça, ce genre de technique, pour vous, c'est miraculeux. En plus, les plantes, c'est un avantage énorme. Ça se bouture, vous pouvez les couper en morceaux, ça ne crie pas. Enfin, il y a plein d'avantages sur les plantes. Vous pouvez mettre dans des tubes, vous alimenter comme ça. Enfin, je veux dire, c'est très, très intéressant. Et du coup, les grandes sociétés semencières, c'est un peu le volet économique que j'essaye de vous donner, les grandes sociétés semencières ont utilisé ces techniques. Ils avaient des laboratoires et tout, pour plusieurs raisons que je vais essayer de vous décrire pour comprendre leur démarche. Vous avez vu tout à l'heure, dans le début de ce que je disais, il y avait plutôt la démarche de type scientifique, comprendre les mécanismes, explorer la variabilité. D'accord. Là, on va rentrer dans une autre démarche que je vais essayer de vous expliquer, qui est la démarche économique. La génétique, ça coûte pas cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, quand un agriculteur il achète de la semence pour emblaver son champ, un champ de blé, ou quand il achète de la semence pour mettre des serres de tomates, ou ce genre de choses, l'apport génétique qui fait que cette plante est légèrement différente, en général, ça représente 1 à 2% du coût total de son implantation de semences, par rapport au coût de la graine, par rapport au coût de machin, etc. Et tout. Donc, les entreprises qui travaillaient dans l'amélioration des plantes, si elles font passer le coût de la semence de 1 à 2%, ça ne se voit pas beaucoup. Mais comme c'est sur des quantités énormes, il y a forcément des sommes énormes qui sont en jeu, donc des gros laboratoires comme Monsanto et d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût faible de la génétique. Il y a un livre qui est paru il y a pas longtemps qui s'appelle « La guerre des semences » qui démontre bien ce souci. Deuxièmement, on s'est dit, ce qui est quand même intéressant, c'est que si on arrive à transporter des gènes de résistance à des parasites, ça veut dire que si le gène qui a une résistance à la teigne, comme je vous ai montré, ou ce genre de choses, on n'aura pas de produits phytosanitaires à utiliser pour guérir la plante quand ce parasite arrivera. Et en plus, et à l'origine, ça je m'en rappelle très bien, quand on disait de remplacer les produits phytosanitaires par tout cela, les économistes disaient, et en plus, au moins on aura avec nous l'ensemble des associations écologiques parce qu'elles comprendront bien qu'on a diminué les produits phytosanitaires. Quand vous voyez comment ça arrivait maintenant, on peut dire que là, ils avaient vraiment fait un flop. Alors ensuite, il y a eu des rêves un peu plus lourds. Moi, j'ai entendu le directeur général de Nestlé qui disait que ça permettrait de résoudre la faim dans le monde par le fait que, je dirais, on pourrait cultiver des plantes dans le Sahel et on arriverait à avoir des plantes qui seraient résistantes aux stress par rapport à la chaleur et l'absence d'eau. Bon, on n'a pas rigolé parce qu'on est poli devant le directeur de Nestlé, mais enfin, ça nous a un petit peu rigolé parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a un moment donné, on ne peut pas non plus. Donc il y a eu des discours un peu lourds, je dirais, de ces gens-là. Et s'est greffé là-dessus une notion qui est très importante, qui a été la notion d'échange complet des semences, et ce qui fait qu'il y a un commerce mondial qui s'est mis en place très rapidement par rapport à ces OGM, mais qui est visible pour l'ensemble des graines. C'est qu'en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait des circuits de domination de la semence par des grandes entreprises, mais il n'y aurait pas eu les OGM, ça aurait été pareil. Ils ont fait le même coup après la guerre de 39-45 avec les hybrides à fin de maïs ou de tomates. Et ce qui fait qu'il y a, en fait, il y a eu une perte, ça a été concomitant à une perte, je dirais, des cultures qui s'auto-approvisionnaient en local par rapport aux semences. Mais là, il faut être très clair, quand on analyse un peu dans le détail, qu'on soit pour ou contre, c'était concomitant et inéluctable. On ne peut pas dire que c'est à cause des OGM qu'il y a une perte de diversité. Ça fait partie des trucs. C'est concomitant, donc c'est pratique de le dire. Greenpeace aime bien le dire. Bon, j'ai des collègues. Hein, bon. Et puis après, quand on est en privé, ils disent non, t'as raison. C'est pas... bon, bah. Donc je veux dire, il y a eu cette concomitance qui a permis de soulever un peu les foules. Alors ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est un transparent que je n'ai pas traduit des USA, c'est le nombre d'essais au champ. Et on voit très bien que tout à fait au début, dans les années 1990-94, l'accent était mis sur ce qui était les légumes, hein, vegetables, les légumes. Et donc on imaginait très bien les transformations. Et quand on voit les essais qui sont faits par les sociétés de semences, on s'aperçoit qu'il y a une part de plus importante à partir de 98 sur les ornementaux. Et ce qui était en fin de compte la prise de conscience par un certain nombre de maisons de sélection par rapport à l'alimentation, comme on le voit, en se disant, bon, ben, on va essayer d'abord, puisque ça ne passe pas en alimentation, parce qu'il y a des blocages partout, on va passer par les ornementaux pour voir ce que ça donne, avec les questions que je vous ai montrées tout à l'heure. Oui, alors un petit transparent sur la situation géopolitique, parce que souvent il y a des questions qui me sont posées là-dessus. Il y a des pays avec des cultures d'OGM importantes, hein, les USA, le Canada, le Brésil, la Chine. Autant pour les USA, Canada et Brésil, on sait à peu près ce qui est fait. Autant pour la Chine, on ne sait pratiquement rien. Ça, c'est très clair là-dessus. Bon, on y reviendra un peu là-dessus, pourquoi ces pays, on peut dire deux mots, pourquoi ces pays acceptent les OGM et pourquoi des pays qui sont sans culture d'OGM, comme l'Europe, quelle est la différence entre ces pays. Très rapidement, si on fait une petite analyse, je dirais, historique de ces pays et de la culture de ces pays, sans faire de particularisme, nous sommes ici dans des grands pays d'Europe de culture assez ancestrale, de 2000 ans de culture, et avec des zones de réflexion propres. Nous sommes ici dans un pays d'échange, dans lequel l'échange économique est excessivement important. Quand on discute avec les collègues américains, on s'aperçoit qu'à un moment donné, la notion d'échange économique prime sur la notion de, je dirais, culture, en gros. Et c'est ce qui se passe dans les boîtes comme Monsanto et ce genre de choses. Donc ça a été décrit au niveau du commerce. Ce genre de notions sont connues dans la notion du commerce dès le 17e, 19e siècle par rapport à ces pays-là. Donc ça. Bon, le Canada, c'est un peu complexe, il est très lié ici. Le Brésil, l'Amérique du Sud, maintenant, est devenu pratiquement une colonie du Nord. La Chine, c'est très intéressant comme culture. La Chine est une culture ancestrale. On dit, enfin, il est dit souvent que un Chinois, Lorsqu'il fait la cuisine, il sait faire la cuisine avec tout, parce qu'il a tellement, ils sont tellement, il y a tellement peu à manger qu'il faut savoir tout cuisiner. Donc si vous arrivez dans ce pays, c'est l'explication qui m'avait été donnée par des Chinois, si vous arrivez dans ce pays avec quelque chose qui va vous apporter ne serait-ce que quelque chose en plus par rapport à la culture, le fait qu'on aura des tomates qui seront récoltées sans pesticides, de toute manière ils ne peuvent pas utiliser des pesticides, donc ils ont enfin des tomates saines, ou le fait qu'on puisse avoir un produit qui est un peu sain du point de vue des maladies, fait que c'est adopté tout de suite parce que c'est ce qui rentrera en plus dans la ration alimentaire. Et donc là, on voit bien à un moment donné, ce que j'essaie de décrire par rapport à ça, c'est que certains aspects de rejet ou d'acceptation sont directement liés pratiquement à la culture alimentaire, donc à l'alimentation du pays dans lequel on est. Et c'est très intéressant. Bon, on peut aller un tout petit peu plus loin. Notamment si vous voyez comment, les anglo-saxons d'Europe, donc les Anglais par exemple, acceptent les OGM par rapport aux Latins. C'est assez impressionnant parce que nous, les Latins, on a vraiment un refus parce que notre alimentation est quelque chose de sacré à un moment donné. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Ils l'ont compris un peu tard, des personnes qui ont fait des notions par rapport au rejet. Alors ensuite, il y a un aspect politique qui est excessivement important. Il y a la notion de risque, ça je vais y revenir. C'est une diapositive que j'ai fait qui était, un petit peu provocante un jour par rapport à certains collègues du Parti Socialiste. Et je leur ai expliqué qu'en fin de compte, quelle était la fonction d'un politique. Ils voulaient se faire réélire, c'est la fonction principale d'un politique. Donc il faut qu'il n'y ait pas de risque, ou bien que le risque soit égal à zéro. Bon, là, je vous dis pas ce que j'ai reçu comme... Bon, de toute façon, je leur ai expliqué aussi les notions de civilisation que j'avais aussi. Par contre, il y a un point qui est important, c'est la notion d'étiquetage, qui revient assez souvent. Pourquoi faut-il étiqueter? Pourquoi faut-il pas étiqueter, etc. Et tout. Alors, de mon point de vue, de l'analyse que j'ai vue, je pense qu'on doit étiqueter. Pourquoi? Parce que la culture que j'ai reçue fait que, normalement, on doit informer, par définition. Donc si on doit informer, c'est par l'étiquette. Après, il faut savoir comment elle a fait l'étiquette. Elle n'est pas toujours très simple. Si on met en gros « contient des OGM », ça veut dire qu'on veut faire peur, ou si on met en tout petit, ça veut dire qu'on veut se cacher. Enfin, ces étiquetages, c'est quelque chose d'horrible à mettre. Et puis, au bout de combien de temps, on ne lit plus les étiquettes quand on fait de cause dans les supermarchés? Ça aussi, il faut quand même être clair, parfois, il y a un moment donné où on arrête de lire les étiquettes. Donc cet étiquetage, tout le monde dit « il faut étiqueter », d'accord, mais... Et je comprends un peu pourquoi la Commission de Bruxelles a du mal à, a vraiment du mal à savoir ce qu'il faut faire, parce que c'est pas si simple que cela. Mais je pense que c'est un droit indispensable à l'information. Donc il faudrait bien qu'ils trouvent une solution pour avoir tout sur leur boulot. C'est pas bien. Oui, alors, c'était un petit transparent aussi pour expliquer par rapport à des questions concernant les recherches. Bon, toutes les recherches à l'INRA, à l'université en France, sont faites dans un système de confinement avec des règles. Il y a tout un cadre de règles. Donc il y a une commission qui vérifie qu'on travaille bien comme il faut. Bon, ça, je ne reviens pas là-dessus. On est un peu... Et donc, j'en viens à la partie qui va recouper un peu l'alimentation. Quels sont les différents risques? Parce qu'en fin de compte, les risques ou les avantages. Alors, très rapidement, quand on fait un OGM, c'est qu'on a intérêt à ce qu'il y ait un gène qui nous intéresse, qu'on met d'une plante dans une autre. Donc ce gène, il a un intérêt. Et en pratique, pour bien reconnaître les OGM, on a aussi ce qu'on appelle un gène de sélection, qui est en général un gène d'antibiotiques. Alors, jusque dans les années, il y a 5-6 ans, on avait ces deux types de gènes. Et le gène de sélection posait un très gros problème, c'est qu'en général, c'était donc une résistance à un antibiotique. Et on se posait des questions du point de vue médical, si le fait d'avoir ce gène présent dans quelque chose qu'on pouvait manger pouvait apporter, par exemple, au niveau des bactéries de l'intestin ou ce genre de choses, une type de sélection, et ce qui fait qu'on aurait eu des problèmes de... Ensuite, si on était malade par rapport à cet antibiotique, si on pouvait être soigné par cet antibiotique. Alors, c'est une question sur laquelle les médecins nous ont un petit peu aidés, mais pas trop, parce que pour eux, la définition au départ, ça a été, de toute manière, quand vous mangez quelque chose, dans votre estomac, ça passe à un pH tel, le pH est l'acidité de l'estomac, ça passe à un pH tel que les gènes sont détruits et vous avez des acides aminés. Alors pour eux, c'était leur raisonnement. Et ils ont, on a beaucoup de mal à leur expliquer que c'est bon, d'accord pour le raisonnement, mais compte tenu de la difficulté de la compréhension qu'il y a des OGM, on voudrait avoir des preuves. Et là, on a eu, c'est assez récent que les médecins s'impliquent dans la démonstration de cela. Bon, il faut dire aussi que c'est un peu compliqué parce que autant quand on prend une plante, on peut la couper en morceaux pour voir si elle a des gènes, etc. et tout, autant on y arrive encore avec des souris, des rats, des machins comme ça. Bon, avec des hommes ou des femmes, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut dire aussi que mettre en place les panels, tout ça, c'est compliqué. Mais ça existe. Et puis, en cours de route, les scientifiques ont pris une autre décision, notamment en France. Ils ont dit, bon, puisque ce gène de sélection, ça fout la zone, excusez-moi pour l'expression, là, on n'a qu'à faire 100. Et comme ça, au moins, le problème ne se posera plus. Et c'est la voie qui a été prise. Moi, je pense que c'est la voie qui est la plus raisonnable, parce que sans ça, on allait dans des systèmes vraiment un petit peu compliqués, et donc maintenant, on travaille sans ce gène de sélection. Donc, si vous voyez dans des articles ou dans des revues de journaux qu'on parle encore de résistance aux antibiotiques et tout ça, ça, ce sont les OGM d'ancienne génération. C'est un peu l'âge de Néandertal. C'est passé, quoi. Je veux dire, il y a eu des questionnements, mais on ne peut plus les prendre en considération. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui est lié au gène d'intérêt. Et on va revenir au niveau de l'alimentation sur l'étiquetage. Alors, il y a deux niveaux au niveau du gène d'intérêt. Soit vous avez mis un gène d'intérêt pour une résistance à un parasite ou pour un herbicide, et ce gène d'intérêt a des produits qui sont des produits en faible quantité, qui fait que quand ils se retrouvent dans la filière, donc c'est plus le gène qui pose problème, mais c'est la protéine issue du gène qui se retrouve dans les biscuits ou ce genre de choses, il peut arriver à un moment donné où ce produit vous apporte une toxicité, puisque de toute manière, une résistance aux maladies, c'est quoi? C'est un gène qui fait une toxine pour empêcher une maladie de croître. C'est clair. Alors, a priori, les premières études qu'on a faites, quand c'est des résistances aux maladies, comme les maladies sont des champignons inférieurs, des bactéries ou des virus, les produits de dégradation de ces protéines dans l'organisme humain n'apportent pas de conséquences, vu que nous ne sommes pas des virus, nous ne sommes pas des protéines. Par contre, là où ça pose parfois problème, c'est certains gènes qui apportent des résistances aux insectes, parce que les insectes, en général, la manière dont les gènes apportent des résistances, c'est des blocages musculaires. Et donc, ça peut avoir un effet de toxicité ou d'allergie chez nous. Donc là, il n'y a pas 40 solutions, enfin, aux yeux actuellement. C'est que, premièrement, il faut qu'il y ait des tests qui soient faits par l'AFSA, de manière à ce qu'on ait une sécurité par rapport à la toxicité. Il faut aussi faire des tests à peu près corrects. Il faut se rappeler l'affaire Poutsai qui a eu lieu en Écosse, où, on a un peu mélangé un peu tout. Donc il faut à tout prix qu'il y ait des tests qui soient faits. Et il faut aussi à tout prix trouver des types de résistance qui ne soient pas de ce type de blocage musculaire au niveau des insectes, mais qui atteignent des fonctions vitales pour l'insecte que nous ne possédons pas. À partir de là, puis après, il faut continuer à rechercher. Je ne dis pas que c'est la solution miracle. Mais ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que les gènes que l'on travaille, les OGM, il y a différents niveaux de génération, si vous voulez, et qu'actuellement, on est encore un peu, du point de vue étude, je dirais qu'on est à peu près au deuxième siècle après Jésus-Christ, il y a des OGM qu'on a. Donc on a encore beaucoup de travail à faire. Autre chose qui peut être, et à mon avis, où là, il faut à tout prix que l'étiquetage prenne le relais, lorsque vous avez l'histoire de la noix du Brésil, où on a été chercher un gène de la noix du Brésil pour le mettre sur le soja. Ensuite, vous faites des biscuits avec le soja, et dans le paquet de biscuits, il y a un fifre de la noix du Brésil. Bande de peau, les gens qui mangent ces biscuits, d'ailleurs, ils ont été retirés depuis, dans certains cas, puisqu'ils ne savaient pas qu'il y avait la protéine issue de la noix du Brésil, ils ont récupéré l'allergénicité qu'ils avaient par rapport à cette noix. Donc là, il n'y a pas 40 solutions, la seule solution, c'est l'étiquetage. Parce que les gens qui ont des problèmes d'allergie, alors les problèmes d'allergie dans l'alimentation, il y en a des quantités monstrueuses, je dirais. Il peut y avoir le gluten, il peut y avoir... il y a tout un tas de choses qui existent comme ça. Et donc là, moi, je vois que l'étiquetage est, à ce moment-là, dans un paquet de biscuits de soja, dire qu'il peut y avoir des traces d'arachide ou de noix du Brésil. Ça, au moins, les gens seront étiquetés et ils sauront que s'ils sont allergènes à cela. Mais là, ce qui est important, et c'est là aussi qu'il faut refaire fonctionner son cerveau, c'est pas du tout la transformation génétique qui est en cause. Parce que, en fin de compte, le gène, il est naturel, les gens savent qu'il existe, on le trouve. On n'a fait que le transporter et dire c'est à cause des OGM, c'est un peu une déviance du langage. Et ça, c'est important, la notion d'assimilation qu'il y a eu à un moment donné. Un peu l'objet de tous les mots. On pourra un peu revenir là-dessus si vous voulez. J'ai essayé d'accélérer. Bon, les risques pour l'environnement et la flore, bon, ce qui a été déterminé au niveau de l'environnement, en général, c'est que c'était des risques qui préexistaient déjà dans la nature, du fait que ces gènes existaient, parce qu'en fin de compte, quand on fait la transgénèse, on n'invente rien. On transporte un gène d'une plante à une autre, donc ces gènes existent. Et donc il y a un moment donné où, s'il existe, il peut faire des soucis. Je vous raconte une histoire, si on a 2 minutes. Ces risques existent-ils? Oui. Donc je passe un peu sur les risques pour l'homme, parce que je suis resté, j'avais oublié cette diapo, avec les aspects d'allergène et toxicité. Ne pas oublier que les risques, c'est excessivement compliqué. C'est qualitatif parce qu'il y a... Chaque situation est différente. Le risque, je dirais, est quelque chose qui est très difficilement mesurable. Quand vous traversez une route, à un endroit où il y a des voitures qui passent, vous appréciez la distance et la probabilité de ne pas se faire écraser en fonction de la distance du véhicule que vous voyez. Et nous tous, on aura une distance différente. Donc vous imaginez bien qu'après, pour faire une législation sur ce genre de choses, c'est assez... c'est assez difficile. Puis, un peu pour provoquer, je rappelle un peu rapidement qu'au niveau des risques, il y a en France quand même trois drogues légales. Bon, c'est un peu de la provoque, enfin, c'est vrai. Il y a quand même 3 drogues légales qui tuent régulièrement pas mal de personnes, qui sont le tabac, l'alcool et la voiture. Donc, il faut de temps en temps un peu bien remettre les risques au même endroit et ne pas oublier un certain nombre de choses. Alors, il y a 2 points que je voudrais apporter. Pardon, il y a 2 points que je voudrais aborder, excusez-moi, qui pour moi sont des choses auxquelles je tiens beaucoup, c'est les notions d'éthique et de philosophie. Alors, au niveau éthique, il faut comprendre qu'à un moment donné, quand on réfléchit à ce qu'a apporté dans le cerveau de l'homme, cette notion d'OGM, ça a été une révolution scientifique lourde. C'était à peu près, on est à peu près aussi choqués par rapport à ces OGM, que l'ont été les gens du temps de Galilée quand il leur a dit que la Terre tournait autour du Soleil et qu'on n'était pas le centre du monde. Parce qu'il y a un truc qui nous est tombé dessus, c'est qu'on pouvait faire des transferts entre espèces. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît pas du tout. Quand on regarde, aussi bien au niveau éthique, on reviendra après au niveau philosophique, quand on regarde cette notion de transfert entre espèces, c'est quelque chose qu'en fin de compte, on rejette totalement. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, on nous a un peu habitués au tout génétique. En général, qu'est-ce qu'on dit ? Je vais chez le médecin, j'ai un souci, j'ai tel ou tel type, mon père aussi avait ce souci. Comme si systématiquement on reproduisait tout. Et il y a eu toute une période de notre culture, dans les années 90-2000, où tout était génétique. Et bon, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de certaines émissions de télévision, où on avait l'impression qu'on pouvait tout résoudre par la génétique, ce qui est totalement aberrant, quand je veux dire ça. Autre point qui a posé un gros problème, c'est ce que j'appelle la brevetabilité du vivant, la notion d'être capable de prendre des brevets, donc de faire de l'argent sur des choses vivantes. Ça, c'est quelque chose qui nous a complètement secoué parce qu'on n'y était pas du tout habitué. Autant on trouve parfaitement normal que quelqu'un qui invente un nouveau frein ou un nouveau pneu ou quelque chose gagne de l'argent par un brevet, autant si c'est parce qu'il a cloné un gène, c'est quelque chose qui ne nous va pas du tout. Donc du point de vue éthique, il y a des tas de choses qui nous vont. Ensuite, c'est greffé les relations nord-sud, je dirais, très importantes qu'il y avait entre les USA et puis en voie de développement, donc il y a eu, et qui était donc le développement de cette mondialisation, donc qui s'est quand même bien entrechoqué avec ces jouets. Et dernier point au niveau de l'éthique, il y a eu tous les aspects de l'utilisation de la recherche, parce que de 1985, moi j'ai commencé mes premières transformations, mais j'étais beaucoup plus jeune, donc je n'avais pas voix à la parole. Mais de 1985 à pratiquement 1995, les chercheurs et les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi on leur disait que ça n'allait pas. Donc il y avait un mur de non-compréhension. Et ça, c'est excessivement important aussi de bien s'en rendre compte, ils étaient chacun dans leur bulle. Une partie de l'éthique que je viens de développer est très importante et se trouve au niveau philosophique, je dirais même parfois assez religieux, c'est la notion de toucher au vivant.
Si vous examinez l'ensemble des philosophies qui existent sur Terre, depuis aussi bien les philosophies grecques que une autre, les philosophies égyptiennes, si vous examinez les philosophies chinoises, vous apercevez qu'à l'origine de chaque philosophie, et après si vous faites la même chose au niveau des religions, dès qu'Enlil a touché au vivant, ça s'est mal barré. L'exemple, c'est l'histoire de Prométhée. L'exemple, c'est l'histoire de, dans la religion catholique, c'est l'histoire de celui qui veut se faire égal de Dieu, etc. Et tout. Donc, toutes les religions, dès qu'on touche au vivant, donc les religions, c'est notre culture, qu'on soit croyant ou pas croyante, ça fait partie de notre culture. Et donc tout ça, ça ressort avec les philosophies. Donc dès qu'on touche au vivant, il y a quelque chose qui passe. La notion de croiser les espèces. Par contre, quelque chose qui nous est arrivé avec le siècle des Lumières, sont les deux derniers points, c'est-à-dire qu'au niveau du siècle des Lumières, ça a été la notion d'accroissement des connaissances qui était excessivement importante. Et là, on est hyper jaloux aussi sur le fait, et c'est pour ça qu'en général, la partie recherche est sauvegardée. On se dit, non, on ne fait pas de c'est compliqué de croiser les espèces, tout ça, mais si c'est pour accroître les connaissances, là, le débat commence à se mettre en place. Et ça, c'est excessivement important, parce que le même cerveau, la même personne, va balancer entre le fait de « je ne veux pas consommer un OGM, mais il faut qu'on fasse des recherches dessus ». Et ça aussi, c'est très important du point de vue, je dirais, par rapport à notre position. Bon, il y a eu après ce que je mets parfois, qui est la légitimité de la recherche, ça c'est plutôt quelque chose. Autant l'accroissement des connaissances est très lié au siècle de lumière et fait tache d'huile un petit peu dans l'ensemble du monde civilisé, autant la notion de légitimité de la recherche est une notion purement franco-française par rapport à d'autres pays. La recherche n'est pas forcément légitime dans d'autres pays, ça on le sait, il suffit de se rappeler certains événements. Et donc on en vient, je dirais un petit peu à la fin d'exposer, avant que vous ayez des questions à poser, c'est que on est réellement devant un fait de société, ça c'est très clair, alors qu'au départ on était parti sur un fait scientifique. Rappelez-vous le début de l'exposé, je vous ai dit, croire les connaissances, la qualité génétique, des melons, enfin voilà. Donc on est vraiment devant un fait de société dans lequel il faut mettre en place l'ensemble des personnes qui composent la société, depuis les politiques, les consommateurs, les associations, enfin un certain nombre de personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important au niveau de la manière dont les choses doivent se passer maintenant. Vous remarquerez que vous ne savez pas, et je ne vous le dirai pas, parce que je ne le sais pas, si je suis pour ou contre les OGM. On pourra en discuter. C'est pour moi plus un élément du débat de construire son raisonnement par rapport à un certain nombre de choses telles qu'on les a vues maintenant et qu'on peut les revoir après.